Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bienvenue à tous, vendredi 29 octobre, vous êtes bien dans le MAG de l'IMO, il est 7h02, bonjour. Bon réveil à tous.
Bonjour à tous, bonjour Fabrice.
Nous sommes en compagnie de Fabienne Lissac, sa grande première dans le MAG de l'IMO, ça va Fabienne?
Tout va bien, je suis bien contente.
Elle a ses notes, elle a ses fiches, tout est prêt pour ce MAG de l'IMO, au programme de l'actu, des infos, des découvertes. On va parler évidemment de plein de sujets passionnants comme chaque semaine qui vous intéressent si vous êtes professionnel de l'immobilier, futurs acquéreurs ou propriétaires. Voilà, c'est votre MAG, tout un tas d'infos qu'on a sélectionné toute cette semaine dans la grille de Radio IMO. À 8h, qu'est-ce qui nous attend Fabienne?
Eh bien, nous aurons le plaisir de recevoir Vincent Rava. Il est directeur général de Mercialys. Alors Mercialys, attention, c'est l'une des principales foncières françaises. En France, en Europe, spécialisée dans la valorisation des centres commerciaux. Tenez-vous bien, 53 sites représentant 844 000 m² de commerce. Vous allez voir, je vais citer les noms et vous allez retrouver tous ces centres commerciaux que vous fréquentez. Et puis juste avant, comme chaque vendredi, nous allons découvrir une nouvelle start-up grâce à Jean-Michel Royot. Cette semaine, il s'agit de Pinpo. Des études prouvent qu'un lead recontacté dans les 5 premières minutes a beaucoup plus de chances de s'engager avec l'agence en question. Problème, les professionnels de l'immobilier n'ont pas toujours le temps de respecter la règle des 5 premières minutes. Eh bien, Pinpo a développé une solution qui recontacte automatiquement les prospects suite à leur premier contact. On en parle tout à l'heure.
Voilà, ce sera avec l'ami Vincent Royot. Ce sera aux alentours de 8h50. Le MAG de l'IMO, c'est parti!
Le MAG de l'IMO, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Quelle est la capitale mondiale du vin? Ningxia en Chine? Bordeaux? Eh bien non, c'est Dijon, le nouveau siège de l'OIV, l'ONU du vin en quelque sorte, va être installé au royaume des ducs de Bourgogne, près de la future cité internationale de la gastronomie et du vin qui va ouvrir en avril. Ces bureaux vont trouver de quoi rayonner à l'hôtel d'Esternault. C'est un édifice du XVIIe siècle, ça a été décidé cette semaine.
Allez, tout de suite, direction Dijon. Patrick Ayache, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, était à votre micro, Fabienne.
Le MAG de l'IMO, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Bonjour Monsieur Ayache, vous êtes le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté et ça doit être l'enthousiasme maintenant que l'OIV a validé à l'unanimité le transfert de son siège à Dijon. C'est l'aboutissement de longs efforts, d'un dossier très nourri sur lequel vous avez travaillé. C'est la joie alors à Dijon?
Oui, bonjour à vous. Alors effectivement, nous sommes... très très heureux de cette excellente nouvelle pour la région, mais je dois quand même dire que c'est à l'initiative, c'est à l'initiative du maire de Dijon qui a fait l'essentiel du travail que nous devons ce beau résultat. La région l'a accompagné de toutes ses forces, nous l'avons accompagné financièrement en étant engagé sur un montant relativement important de subventions pour la rénovation du bâtiment. Donc nous sommes très satisfaits, mais je dois à l'honnêteté de dire que l'essentiel du travail a été fait par la ville de Dijon et son maire.
Très bien. Et pour la France, c'est une belle victoire, une bonne nouvelle. Il y avait également Bordeaux qui était en lice. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement? C'est Dijon, la vraie capitale du vin?
Alors, écoutez, je crois que on parlait de belle victoire pour Dijon, pour la région, mais c'est aussi, effectivement, comme vous le dites, une belle victoire pour la France. Je pense que la Bourgogne, au sens viticole du terme, a autant de raisons de recevoir le siège de l'OIV qu'aurait pu avoir évidemment le Bordelais, qui est également un grand vignoble. Mais la différence peut-être vient du fait que nous avons travaillé de concert la ville, la métropole, la région, le gouvernement français qui est très engagé dans le dispositif, et que l'offre qui a été faite est une offre parfaite. Un bâtiment exceptionnel, placé magnifiquement à Dijon, à proximité de la Cité internationale de la gastronomie, et une région et une métropole qui ont pris le pas de la viticulture depuis des années. Quelques exemples pour illustrer ça. Il y a encore quelques semaines, je posais au nom de la région la première pierre de la Cité des Vins à Beaune. Il y a quelques semaines encore, je posais la première pierre de la Cité des Vins à Chablis. Au printemps, je crois, la première pierre de la Cité des Vins à Mâcon. Bientôt, on va ouvrir la Cité de la Gastronomie et des Vins à Dijon. Il y a un projet de Cité des Vins dans le Jura. Voilà, il y a des opérateurs aidés à chaque fois par la région qui se démènent pour faire de cette région la première région viticole de France. Et j'en suis très fier, bien sûr.
On dirait que c'est un moment historique qui va renforcer l'image internationale de la région et puis de Dijon dans le domaine vinicole, non ?
Ah ben bien entendu, parce que c'est un siège mondial, c'est en quelque sorte l'ONU du vin, donc la structure n'est pas très connue du grand public, mais elle est connue de tous les opérateurs qui interviennent dans ce secteur de notre économie. C'est, comme je l'ai dit, un siège mondial, donc avec toutes les retombées en termes d'attractivité. Vous savez que l'attractivité pour un territoire, c'est fondamental aujourd'hui. La structure est ce qu'elle est, je crois de mémoire 25 ou 30 salariés, mais le rayonnement de cette structure est tout à fait exceptionnel. Nous allons recevoir là-bas des ambassadeurs, nous recevrons, et puis il y aura tout le travail qui va être fait dans ce cadre magnifique et qui va rendre notre région et sa capitale Dijon encore plus attractives qu'elles ne le sont.
Et c'est vrai qu'on parle bien évidemment du domaine vinicole, mais si on parle de tourisme d'affaires, ça semble être un atout de poids qui va renforcer l'attractivité de la métropole et la fréquentation hôtelière sur Dijon. Vous attendez à ça, effectivement ?
Ah, bien entendu, oui. Alors, il y a déjà une très bonne fréquentation hôtelière. Hein. Nous sommes assez satisfaits. J'ai fait le bilan de cet été avec, malgré la crise du Covid, un niveau de satisfaction. Nous avons enquêté sur l'ensemble des hôteliers de la région, un niveau de satisfaction auquel on ne s'attendait pas. Donc il y a déjà évidemment un taux de remplissage, de fréquentation des hébergements régionaux et de ceux de Dijon qui est très satisfaisant. Mais évidemment, l'implantation du siège de l'OIV ne peut que apporter de nouveaux visiteurs, de nouveaux déplacements, de nouvelles raisons de venir dans notre région et à Dijon. Et tout ça, vous avez raison, accroît l'attractivité et donc va générer probablement du chiffre d'affaires supplémentaire pour nos hôteliers et nos restaurateurs.
Alors, le siège de l'organisation s'installe dans la Cité des Ducs à l'horizon 2024, on l'a bien compris. C'est pas n'importe où, hein, il va prendre place à l'hôtel Bouchu d'Esternault. Vous pouvez nous en parler. Nous, à Radio Immo, nous y sommes allés dans le cadre de l'émission Les Clés de la Ville à Dijon que vous retrouvez sur Internet. Mais ça vaut le détour. Vous pouvez nous en parler, monsieur Ayache ?
Ah ben, oui, j'y étais également lors d'une des... récemment, là, il y a un mois, je pense, et encore une fois au printemps, à la fin du printemps, je m'étais rendu pour accompagner François Rebsamen, qui recevait donc la délégation. Il y a un double intérêt à ce lieu. Il y a d'abord le bâtiment que vous connaissez, donc, qui est un bâtiment extraordinaire, qui va être entièrement rénové. Mais il y a aussi...
17e siècle, si je ne m'abuse.
Voilà, mais il y a aussi ces jardins magnifiques qui vont permettre, comment dirais-je, de faire de ce lieu, certes le siège de l'OIV, mais probablement un lieu de visite tout à fait extraordinaire. Donc, oui, le lieu est magnifique et le projet de restauration l'est également, ce qui est important. Hein. Donc, du coup, le patrimoine de notre région et de la ville de Dijon va s'en trouver modernisé, rajeuni et je l'espère, reconnu par tous ceux qui y viendront.
Alors, vous avez réussi à faire cette interview sans citer Gevrey-Chambertin ou Nuit Saint-Georges. Ça y est, vous êtes branché sur l'international.
Oui, on pourrait citer tous les terroirs, mais vous connaissez comme moi la Bourgogne. Il faudrait que votre émission dure une demi-heure de plus. Donc, c'est volontairement que je n'ai cité personne parce que cette organisation, elle a vocation justement à défendre la profession viticole dans tous ses terroirs, les tout petits, les grands, ceux qui ont une très grande notoriété, ceux qui en ont moins. Donc voilà, il faut que tout cela se mette en place avec tout le monde.
Eh bien, on espère qu'une dégustation sera d'actualité très bientôt pour fêter cette nouvelle, l'ONU du vin installé à Dijon. Merci, monsieur Patrick Haya. Je rappelle, vous êtes le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge du tourisme, de l'attractivité et président du comité régional de tourisme. Bravo à vous et merci pour cet entretien.
Eh bien, merci à vous également.
Merci, monsieur.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
7h14 sur Radio Imo, vous êtes bien dans le Mac de Limo. Nous sommes toujours en direct en compagnie de Fabienne. Fabienne, on va parler emploi tout de suite.
Mais oui, parce que le secteur immobilier affiche une santé étincelante, comme vous, Fabrice. 78% des dirigeants ont l'intention de recruter de nouveaux collaborateurs dans les 3 ans qui viennent. C'est une enquête de Recrute Imo et Vincent Favreau nous en fait la synthèse.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Crise majeure, résilience et redémarrage, ce pourraient être les 3 enseignements principaux de cette enquête de Recrute Imo autour de l'emploi dans le secteur. L'emploi immobilier, tout sauf immobile, car oui, tous les indicateurs de recrutement sont au vert quand on est candidat. 79% des recruteurs se déclaraient optimistes au printemps contre 54% à l'automne 2020. Un beau dynamisme qui se confirme par les 87% des employeurs du secteur qui déclarent recruter ou vouloir recruter au moins un candidat par an. Mieux encore, la concurrence est féroce sur le marché. 82% des candidats affirment avoir été contactés par d'autres employeurs dans les 6 derniers mois, selon l'étude Recrute Imo. Car c'est bien sur ce volet que les problèmes se posent. Si les perspectives sont bonnes quand on est candidat, elles le sont moins quand on est recruteur. 95% des employeurs disent avoir des difficultés à recruter, ce qui amène à regarder les profils différemment et différents profils. Ainsi, 85% des employeurs se disent friands de candidats en reconversion professionnelle. 77% placent l'expérience professionnelle comme un critère important, alors que 7% seulement placent le diplôme comme essentiel à l'embauche. Enfin, sur le profil des candidats qui cherchent, le site Recrute Imo qui a réalisé l'étude nous dresse un tableau d'un milieu assez ouvert. 57% des candidats sont des candidates. Côté moyenne d'âge, ce sont les 50 ans et plus qui sont les plus représentés, à 32% sur l'ensemble. Côté recruteur, on retrouve plutôt des hommes à 65%, avec pour plus d'un recruteur sur deux une moyenne d'âge qui dépasse les 50 ans. Enfin, terminons cette étude avec le top 5 des métiers les plus recherchés. Celui de négociateur immobilier est numéro 1, suivi des gestionnaires locatifs, puis des gestionnaires de copropriété, très recherchés également.
Le Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Galtier Valuation, ce sont 60 professionnels, experts en évaluation immobilière, techniciens du bâtiment et ingénieurs en environnement, qui travaillent sur l'ensemble du territoire pour vous proposer une offre globale d'expertise indispensable à une vision précise de la valeur de votre patrimoine immobilier. Recourir à l'expertise de Galtier Valuation, c'est vous assurer de faire appel à une équipe reconnue pour son professionnalisme.
Depuis plus de 40 ans, GERCOP est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, GERCOP offre une gamme de produits complète pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, GERCOP vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. GERCOP.com.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Le Mac de l'Immo, on s'intéresse tout de suite à vos placements immobiliers avec les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. On le sait, eh bien, des placements qui ont le vent en poupe, ce qu'on appelle la pierre papier, est toujours plébiscité par les épargnants en 2021, Fabienne.
Oui, et jeudi, Leclerc a eu l'occasion d'interviewer Olivier Loussouarn, il est directeur des investissements chez Sofidy. Attention, c'est le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI, avec 6,7 milliards d'euros sous gestion tout de même. Un gestionnaire de référence dans ce paysage de la gestion d'actifs immobiliers en France et en Europe. On l'écoute.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Bonjour Monsieur Olivier Loussouarn, vous êtes le directeur des investissements chez Sofidy. Pouvez-vous nous présenter Sofidy en quelques mots ?
Sofidy, c'est une société de gestion de véhicules d'investissement principalement, on va dire, dédiée au service du grand public. C'est-à-dire qu'on, depuis plus de 30 ans, 35 ans maintenant, on développe plusieurs véhicules qui ont vocation à recevoir l'épargne de gens comme vous et moi. Et nos performances, effectivement, régulières, stables et plutôt orientées à la hausse, peuvent nous distinguer dans un monde qui est en pleine explosion, j'allais dire, dans un contexte d'industrie qui effectivement bénéficie, modulo la crise longue dont on espère sortir, bénéficie de ciel plutôt clément pour les années à venir.
Rappelez-nous en quelques mots les bénéfices et les opportunités qu'apporte un investissement dans une SCPI.
Ah bah la principale intérêt d'investir dans une SCPI, si vous prenez des grands véhicules comme Immorente et Ifimo, qui sont nos deux véhicules amiraux, on va dire, c'est que vous investissez dans respectivement 4000 et 2000 locataires. Donc vous avez une mutualisation très forte qui permet de répliquer quelque part une performance statistique de l'immobilier. Et vous êtes débarrassé de toute gestion, puisque vous avez un manager, un opérateur qui est rémunéré pour cela. Donc ce sont ça les principaux intérêts.
Quels sont les produits d'investissement que vous proposez et comment vous accompagnez votre clientèle ?
Alors nous proposons, nous avons une gamme assez complète et qui devrait se compléter d'ailleurs dans quelques mois par un véhicule à vocation résidentielle dans le sens large du terme. Hein. Toute solution d'hébergement, même touristique, même pour une nuit, aura vocation à être hébergé dans ce nouveau véhicule, mais nous déclinons toutes les classes d'actifs dans nos véhicules et déclinons de plus en plus de géographies. Notre but est de faire bénéficier à nos clients épargnants dans la durée d'un savoir-faire qui va croissant, de compétences qui vont s'élargissant sur chaque année de nouvelles géographies, tout en restant dans l'Europe de l'Ouest et avec une spécialisation peut-être à l'origine commerce, c'est là d'où nous venons, puis bureau, et ces 10 dernières années, compétences en termes de classe d'actifs qui s'est élargie à l'hôtellerie, à la petite logistique, et qui commence à se déployer effectivement maintenant sur le résidentiel.
Justement, l'immobilier de bureau et de commerce, selon vous, comment se porte le marché depuis l'arrivée de la pandémie ?
Alors, ce qu'on peut dire dans les très grandes lignes sur le bureau, c'est que effectivement cette pandémie et tout ce phénomène de télétravail, hein, qu'il ne faut surtout pas nier, les premières conséquences que l'on observe concernent surtout un immobilier probablement moins bien desservi, moins bien localisé, en moins bon état, moins central. Mais tous les marchés de cœur de métropole qui bénéficie effectivement de prestations adaptées aux besoins des utilisateurs, qui sont très bien desservis, ne souffrent pas encore. On le voit, c'est un phénomène observable, pas seulement à Paris, mais dans toutes les métropoles européennes que l'on a dans le viseur. Donc ça, c'est ce que l'on peut dire rapidement pour le bureau, mais en restant très modeste, parce qu'on n'en est effectivement qu'au début de l'observation de cet impact qu'aura le télétravail et donc des effets à long terme de cette crise du Covid. Et pour le commerce, alors on pourrait en parler effectivement plusieurs heures, mais pour résumer, nous, ce que l'on observe du commerce, nos savoir-faire portent principalement sur des pieds d'immeubles en cœur de ville, en cœur de métropole et sur des surfaces de périphérie aussi que l'on retrouve autour de ces dites métropoles. Et ce sont deux classes d'actifs qui se sont montrées particulièrement résistantes à ce Covid, à l'instar des grands centres commerciaux qui sont peut-être un petit peu plus en difficulté et des boutiques de luxe, on va dire, qui souffrent un petit peu au-delà de la crise sanitaire de l'absence des touristes internationaux fortunés. Nous ne sommes pas ou très très peu exposés à ces deux catégories un peu plus vulnérables, et je dirais que le retour à une forme de normalité devrait susciter un regain d'appétit des investisseurs pour les classes d'actifs au rythme de la normalisation attendue dans les prochains mois.
Pensez-vous que le marché de la pierre papier va évoluer ?
Le marché de la pierre papier, mon point de vue, très modestement, effectivement, c'est que c'est très convaincant. Cette solution est peu connue du grand public, à mon avis, va bénéficier de vents porteurs dans les prochaines années, comme elle en a bénéficié ces 10 dernières années. Elle est sortie de sa mue, je dirais, il y a une dizaine d'années, à la faveur de la baisse très sensible des taux d'intérêt. Ses performances ont été mises en relief à 4, 5%, parfois plus. Et donc, c'est un thème très intéressant pour constituer notamment des compléments de retraite, constituer des patrimoines à l'heure où, effectivement, les régimes généraux de retraite sont un peu questionnés. Je pense que c'est un recours, l'immobilier papier, un recours très pertinent pour le plus grand nombre et dès le plus jeune âge, je dirais.
Vous nous avez présenté plusieurs investissements immobiliers que Sophie Di a réalisés, par exemple à Lyon, Paris, Londres. Avez-vous d'autres projets en cours en France et en Europe, voire sur d'autres continents ?
Alors d'autres continents, non, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Il faut y aller modestement. Quand on achète un actif, c'est bien, mais il faut garder une main très ferme sur la gestion, le suivi, le monitoring des actifs dans la durée. Donc déjà, effectivement, investir en dehors des frontières françaises nous pose cette question centrale de bien gérer, de rester proche de ces actifs. Par contre, oui, aujourd'hui, nous sommes présents historiquement en France. Nous sommes sortis de France via la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, plus récemment via l'Angleterre, également l'Irlande. Et nous avons, bien entendu, comme projet, un jour d'acheter probablement en Espagne, en Italie, peut-être au Danemark, en Finlande, pour couvrir l'intégralité, effectivement, des géographies de l'Ouest européen.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le ouais. Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Il est 7h25, tout va bien. La responsabilité sociétale des entreprises est considérée comme une opportunité par de plus en plus d'acteurs immobiliers pour créer ou se réinventer. C'est le cas notamment du géant du conseil en immobilier CBRE qui vient de publier son rapport RSE dédié à ses initiatives en Europe, basé sur trois piliers: planète, people, practices. J'ai un bon accent, hein, Fabrice. Il détaille les engagements de CBRE. C'est un sujet de Johanna Zilberstein.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Les grands noms de l'immobilier aussi ont compris l'importance de la RSE. Le géant du conseil en immobilier CBRE vient ainsi de publier son premier rapport RSE dédié à ses initiatives en Europe. Basé sur trois piliers, Planet, People, Practices, comprenez planète, personne et pratique en français, ce rapport détaille les engagements de CBRE. Commençons par la planète, objectif zéro carbone d'ici 2030 avec des objectifs ambitieux pour les activités de property management et de facility management. Moins 79% d'émissions carbone sur les sites des utilisateurs et moins 67% pour les investisseurs d'ici à 2035. Au volet des personnes, diversité, partage et innovation sont au centre des préoccupations. En 2020, ce sont ainsi 84% des collaborateurs qui ont été formés, alors que 60% des managers du groupe sont issus de mobilité interne. Sans oublier la crise sanitaire, puisque CBRE a donné plus de 15 millions de dollars pour la lutte contre le Covid-19. Enfin, en ce qui concerne les pratiques, CBRE permet à ses collaborateurs d'être acteurs du changement grâce à ses trois instances, All Greens Inclusion and Diversity Network et CB Solidaire, de quoi suivre les changements inhérents à notre époque et répondre aux objectifs d'un futur pas si lointain.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
C'était Jane, bien sûr, comme
j'adore
sur Radio Limo.
J'adore, ça entraîne, c'est bien.
Mais oui, c'est vous qui m'avez fait penser à mettre ça. On part maintenant du côté de l'Asie, du côté de la Chine plus exactement, où le promoteur Evergrande, promoteur immobilier hein, énorme, défraie la chronique, on en a sans doute entendu parler. Vous avez, Fabienne, interviewé le conseiller en stratégie de chez Pictet AM, Frédéric Rollin, sur l'Asie et justement la chute des promoteurs immobiliers asiatiques. On l'écoute tout de suite.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
De nouvelles inquiétudes en Chine après Evergrande. Un nouveau promoteur immobilier fait défaut. Il s'agit de Fantasia. Ces titres des promoteurs chinois sont vus comme fragiles et dégringolent en bourse. On en parle avec Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Frédéric Rollin, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui se passe au juste ?
Alors, l'immobilier chinois, c'est un gros secteur pour l'économie chinoise, un secteur qui s'est fortement développé au cours des dernières années, notamment en s'endettant. Et pour prendre Evergrande, qui est un des grands promoteurs, un des premiers à avoir eu des difficultés, sa dette, en 10 ans, a été multipliée par 20. Et quand on prend les 8 premiers promoteurs chinois, leur dette a été multipliée par 10 sur la même période. À un moment donné, le gouvernement, ça c'est août 2020, dit « attention, trop de dettes ». Il faut limiter, ça met un coup de froid sur l'immobilier, les promoteurs sont obligés de ralentir et là, ils commencent à avoir du mal à refinancer leur activité. Il faut refinancer leur activité, il faut refinancer la dette. Évidemment, les investisseurs qui voient que ces promoteurs ont des difficultés refusent de leur prêter et c'est là que les problèmes commencent. Donc Evergrande, et puis Fantasia, et puis Cynic, et puis c'est un petit peu la cascade aujourd'hui des promoteurs immobiliers qui sont aujourd'hui au bord de la faillite.
Et pourquoi on en est là ? L'État quand même ne reste pas les bras croisés. Hein.
Alors, l'État ne veut pas que tout son secteur immobilier ne tombe à l'eau. Il y a un urbanisme aujourd'hui qui est très très fort en Chine. Plusieurs millions de Chinois, chaque mois, passent de la campagne à la ville. Il faut construire. Le secteur immobilier, c'est un secteur très important. Donc, ce qui est en train de se profiler aujourd'hui, c'est que certains promoteurs immobiliers qui ont vraiment trop pris de risques, eh bien, assez probablement, vont faire défaut. C'est assez probable. Et puis d'autres qui ont pris un peu moins de risques eh bien, vont récupérer l'activité de ces promoteurs qui tombent à l'eau aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a un risque quand même que cette crise d'abord immobilière se transforme en crise financière globale ?
Alors c'est toujours une question. On se souvient de 2008, la crise immobilière avait commencé assez doucement, puis finalement, le feu avait pris partout. Nous, on pense que ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, on voit que certaines actions de promoteurs immobiliers chinois plutôt sains eh bien, ont fortement rebondi, alors que d'autres qui sont beaucoup plus endettés eh bien, continuent de chuter. Pour nous, pas de crise financière. Pourquoi ? Parce que même s'il y en a eu un endettement qui était assez fort dans ce secteur-là, au fond, c'est un endettement qui est assez naturel. Il y a une urbanisation qui est très forte et il n'y a pas aujourd'hui d'excès par rapport à la tendance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accélération très forte de l'immobilier ou de levier au cours des dernières années. Pour prendre une illustration, juste avant la crise financière aux États-Unis, eh bien à peu près 100% de l'achat d'un appartement ou d'une maison était financé par la banque. Aujourd'hui, en Chine, c'est seulement autour de 25%. Donc, vous voyez, il y a beaucoup moins de leviers. Donc, les risques aujourd'hui de contagion de l'immobilier au secteur financier sont beaucoup plus faibles. Donc, un risque de ralentissement en Chine, puisque beaucoup de gens vont avoir un petit peu de doute aujourd'hui pour acheter un appartement, de peur qu'il ne soit pas terminé. Mais assez probablement pas de crise financière en Chine. Et donc, probablement pas de crise financière mondiale.
Alors c'est vrai qu'il y a ces inquiétudes, ces interrogations sur la propagation au secteur financier, mais question également sur la propagation au secteur immobilier. L'Asie, ça paraît loin. Est-ce que l'immobilier en Europe, aux États-Unis, peut être atteint par cette déflagration ?
Alors pour nous, probablement pas. Je crois que si on reprend l'exemple de la crise financière et la crise immobilière de 2008, pourquoi est-ce que cette crise a atteint l'Europe et le reste du monde ? Par le système financier. C'est à un moment donné, vous avez des sociétés qui ont fortement investi, enfin des banques qui ont fortement investi sur l'immobilier américain, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient européenne et l'immobilier américain chutant, eh bien, ça s'est propagé sur le continent européen. Aujourd'hui, oui, il y a des investisseurs européens, il y a des banques européennes qui sont engagées naturellement sur l'immobilier chinois, qui reste quand même un marché important, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir en 2008. Ça reste aujourd'hui quelque chose de très marginal. Donc, ça devrait rester concentré en Chine. Alors évidemment, le risque au total, c'est un dérapage en Chine, donc une Chine qui ralentit fortement. Et si le principal moteur économique mondial ralentit, évidemment, nous en sentirons les effets en Europe et aux États-Unis.
Merci beaucoup Frédéric Rollin. Je rappelle, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Et petite mention de ce groupe Evergrande, fondé en 1996, devenu un géant de l'économie chinoise. C'est le deuxième promoteur immobilier du pays qui compte près de 200 000 salariés. Merci pour cet entretien.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Trois squats en deux ans. À Toulouse, Georges Dematis, un retraité de 84 ans, est désespéré. Ça fait une fois, deux fois, non, trois fois que sa maison est squattée. Et le problème, donc, c'est qu'il n'arrive pas à récupérer son logement. Pourquoi est-il si difficile de récupérer son logement lorsqu'il y a une telle infraction? Est-ce qu'il y a des solutions? Un sujet de Jody Leclerc.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Généralement, c'est les résidences secondaires qui sont squattées. En effet, les démarches à suivre pour les propriétaires sont drastiques. Le propriétaire n'a que 48 heures pour faire intervenir la police. Et s'il dépasse ce temps, il s'embarque dans des poursuites. C'est une lourde procédure qui l'attend, car elle peut durer plus d'un mois avant de pouvoir faire expulser les squatteurs. Les propriétaires sont en droit de se demander si la propriété est-elle toujours un droit inviolable et sacré, comme le prévoit l'article 17 de la Constitution. Et le constat est le suivant. La bataille squatteur versus squatté, c'est un peu deux poids deux mesures. Tout d'abord, c'est le propriétaire qui doit prouver qu'il y a une infraction dans sa résidence. S'il veut faire justice lui-même, il est plus pénalisé. S'il expulse le ou les squatteurs, il risque 30 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Pour le et les squatteurs, c'est 15 000 euros d'amende et 1 an de prison. Depuis le 1er janvier 2021, l'exécutif a proposé un amendement. Une loi anti-squat a fait son apparition. L'idée est d'allonger la durée qu'a le propriétaire pour réagir lorsque sa résidence est squattée. Ce n'est plus 48 heures, mais 72 heures pour signaler l'infraction. Le propriétaire devra porter plainte pour violation de domicile au commissariat. Et ensuite, un officier de police judiciaire doit se déplacer pour constater l'infraction. Et sans constat d'un officier de police judiciaire, le propriétaire ne peut pas adresser une demande d'expulsion au préfet qui, lui, a 48 heures pour lui répondre. Du côté de La République En Marche, notamment Valérie Gomez-Bazac, députée du Var, porte-parole de la majorité à l'Assemblée nationale, on reconnaît un problème d'interprétation de la notion de domicile tout en rejetant le fait qu'elle ne soit pas assez claire. Selon elle, il y a d'un côté de la loi et de l'autre l'interprétation qui est faite par les forces de l'ordre et les services de l'État.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Pareb Gestion, c'est 25 ans d'innovation financière au service de l'immobilier. Récompensé à plusieurs reprises pour ses performances financières avec des solutions adaptées à chaque objectif patrimonial. Pareb Gestion bénéficie d'une expertise multisectorielle en immobilier tant commercial que d'habitation. Constituez le capital pierre de vos clients avec les SCPI de Pareb Gestion. Plus d'informations sur www.pareb-gestion.com.
C'est sur bienici.com que Zoé a trouvé un joli studio à louer. À un quart d'heure de la fac.
C'est bien ici.
Confortablement meublé.
C'est bien ici.
Dans un quartier vivant et animé.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com que Zoé a eu son coup de cœur. Grâce à une recherche immobilière innovante par temps de trajet et vie de quartier. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
On continue le Mac de l'Immo, il est 7h40. Bonjour à tous et je vous propose de reparler des prix de l'immobilier avec Henri Buzy-Cazot, le président de l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers. Il tire la sonnette d'alarme car il y a des tensions sociales en vue à cause de la cherté de l'immobilier pour nos compatriotes. On l'écoute tout de suite.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Je salue les auditeurs de Radio Immo. On va parler de prix, de cherté de l'immobilier résidentiel en France et on va parler peut-être d'une solution bien inattendue à ces prix élevés qui d'ailleurs ne cessent d'augmenter à l'exception de la capitale. Depuis quelques mois, on voit les prix parisiens stagner, voire baisser légèrement chaque mois. Partout ailleurs, on a un niveau de prix en décalage de plus en plus fort avec les revenus des ménages, des efforts exigés de ces ménages de plus en plus importants. Il faut mesurer que nous sommes peut-être à la veille de tensions sociales à ce sujet-là. Il faudrait, avant que le pire n'arrive, on a connu l'épisode des Gilets jaunes qui déjà était une réaction à la fragilisation budgétaire des ménages. Il faudrait qu'on remédie immédiatement à cette question de la cherté des prix et qu'on ne s'en satisfasse pas. La communauté immobilière, je le dis avec affection parce que c'est mon univers professionnel, mais je le dis avec fermeté, cette communauté professionnelle ne peut pas continuer à trouver que plus d'un million de transactions par an à des niveaux de prix de plus en plus élevés signifie qu'on est en pleine santé. Non, on n'est pas en pleine santé quand il y a des ménages dont les capacités contributives sont de plus en plus éloignées des prix des logements sur les marchés qui les intéressent. C'est vrai dans les métropoles et ça commence à être vrai dans les villes moyennes dont l'attractivité aux yeux des ménages après la Covid est fortement majorée. Eh bien, il risque de se passer une chose qu'on ne voit pas venir, liée à la transition environnementale. Vous avez en tête les dernières dispositions de la loi climat-résilience, mais aussi les obligations des textes précédents, la loi énergie-climat. On voit bien que on va vers une obligation ou une puissante incitation, si on parle de copropriété, à remettre à un niveau de vertu énergétique suffisant les logements dont nous sommes collectivement propriétaires. Les enjeux sont considérables. C'est probablement de l'ordre de 1 000 milliards d'euros qu'il va falloir engager, aussi bien dans le parc locatif social HLM que dans le parc locatif privé, que dans les maisons individuelles, résidences principales ou dans les logements en copropriété occupés par leurs propriétaires. 1 000 milliards d'euros, c'est considérable. Et oui, ça va peser sur les prix. Quand un logement va devoir, au moment de sa cession, ou pour pouvoir continuer d'être loué, puisque autrement il sera reconnu indécent, quand un logement va devoir être amélioré avec probablement des enjeux qui vont être de 20, 25, 30, 40, 50 000 euros par logement, peut-on imaginer que les prix n'en soient pas affectés ? Il est certain que la solvabilité des ménages va se retrouver éprouvée à son maximum, mais elle ne pourra l'être qu'à l'intérieur d'une enveloppe constante. Et par voie de conséquence, il n'est pas pensable qu'un logement qui est bien sûr une passoire énergétique pour les moins vertueux ou tout simplement en catégorie D pour l'essentiel des logements, alors même que la vertu sera dans les lettres A, B, C du diagnostic de performance énergétique, il n'est pas pensable que ça ne pèse pas sur les prix. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Eh bien non. Dans ce contexte, dans le contexte de prix très élevés que nous vivons depuis maintenant plusieurs années, ce sera plutôt une bonne nouvelle et même une double bonne nouvelle parce que à la clé, dans les années à venir, il y a cette restauration collective du parc de logements français, des quelque 35 millions de logements français. Je pense que la nation s'engage dans un effort colossal, aidé sans doute par l'État, et qu'elle devra en sortir par le haut. La baisse des prix, le tempérament, la modération des prix à la clé est clairement une bonne nouvelle reliée à la transition environnementale. Voilà un beau travail d'ailleurs pour les experts immobiliers qui vont devoir modéliser ces évolutions de prix dont nous ressentons qu'elles sont inévitables. Merci de votre attention.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
On vient d'écouter le dernier Stromae, santé.
Super, hein, ça a toujours du rythme, de la bonne humeur. Et moi, je vous parle, Fabrice, du retour de l'État. Mais oui, l'État veut encadrer la construction des HLM, hein, les habitations à loyer modéré. Son objectif, stopper la construction dans certaines communes. Concrètement, le nombre de HLM dans les villes ne doit pas dépasser 40% du parc locatif. Un sujet de Jody Leclerc.
Le Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
La ministre du Logement a envoyé cet été une circulaire au préfet pour faire passer le message. Les immeubles et pavillons qui sont construits dans le cadre des loyers modérés, compris entre 7 et 12 euros le mètre carré selon la zone géographique, sont de plus en plus nombreux en France à sortir de terre. Des abus existent, notamment en Île-de-France. Selon l'Institut Paris Région, 40 villes sont concernées. Par exemple, 69,2% du parc locatif de Duny dans le département du 93 est représenté par des HLM. En Île-de-France, on compte 1,3 million de logements sociaux, soit plus d'un quart du parc national. Pourtant, il y a un réel besoin de ce type de logement. En 2019, 736 000 demandes ont été enregistrées dans la région, alors qu'il n'y a eu que 72 000 attributions. Une vraie disparité existe entre les maires bâtisseurs et les autres. Pour ceux qui ne construisent pas assez de HLM, l'exécutif a prévu de transférer le permis de construire attribué au maire directement au préfet. De l'autre côté, il y a des maires qui bâtissent trop de HLM. C'est pourquoi le gouvernement envisage d'encadrer la construction de nouveaux HLM au profit d'une diversification de l'offre de logement. Derrière cette régulation de la construction, l'objectif du gouvernement est de mettre en place une plus grande mixité sociale dans certains quartiers. Car après avoir pris conscience de l'importance de certains métiers pendant la crise Covid, l'exécutif souhaite réserver certains logements HLM aux travailleurs prioritaires tels que les personnels hospitaliers,
les policiers ou encore les enseignants.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le Mac de Dingmo, toujours en direct, 7h50, pour tous ceux qui nous rejoignent, vous le savez, c'est tous les vendredis, 7h à 9h. Et tout de suite, c'est l'heure de redécouvrir la start-up IMO de la semaine en compagnie de Jean-Michel Royot. Il nous présente Pimpo, la solution pour transformer ses leads en clients. Tout un programme, une interview réalisée en direct du Rhin. On écoute Jean-Michel tout de suite.
La start-up IMO, Jean-Michel Royot.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Laurence Benarmran de Pimpo, cofondatrice et CEO de Pimpo. Bonjour Laurence, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien et vous ?
En forme ?
Ouais, super.
Nous sommes au Rhin où nous rencontrons énormément de start-up et de belles innovations. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de votre petite start-up, petite,
ouais,
pas si petite
sûr.
Que ça.
Hein. Ouais.
Et avant tout, pour garder nos habitudes chez Startup IMO, l'émission consacrée aux startups de Radio IMO. Ma première question est la suivante. Quelle est votre promesse ?
Alors, notre promesse, c'est de doubler les taux de conversion des entreprises en déployant en moins d'une semaine une solution dans leur organisation sales et marketing.
D'accord. Donc, vous doublez les leads, en fait ?
Exactement. Le taux de transformation de leads à clients. Et on arrive à faire ça parce qu'on a une solution qui leur permet d'engager par SMS et WhatsApp tous leurs contacts en temps réel et de les relancer, etc. Et ça marche super bien.
Parfait. Alors, si on veut en savoir plus, que vous pouvez nous dire sur votre start-up ? Ça existe depuis combien d'années ? Comment vous déployez ? Vous êtes basé où ? Comment ça marche ? On veut tout savoir.
Oui, bien
Laurence,
sûr.
C'est à vous.
C'est à moi. Pimpo, c'est une belle histoire. Initialement, donc il y a quelques années, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était une application de matching entre locataires et propriétaires, donc un Tinder de l'immobilier que j'avais développé avec mon cofondateur Sacha, qui était mon co-stagiaire en fonds d'investissement à l'époque. Et après avoir beaucoup parlé aux acteurs de l'immobilier en France et aussi en Amérique du Nord, on a compris qu'il y avait un vrai problème sur le traitement des contacts. Le fait qu'il y ait beaucoup d'argent investi pour les générer, mais peu de moyens derrière pour vraiment faire plus de revenus avec un contact. Et on a décidé il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, de travailler sur cette question-là et de développer la solution Pimpo telle qu'elle est aujourd'hui.
Et c'est une vraie success story.
Ouais, bah aujourd'hui ça marche bien.
Moi j'ai été bluffé par les belles entreprises de l'immobilier qui vous font confiance. Donc est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Oui, bien sûr. On a des promoteurs comme Crédit Agricole Immobilier, Quartus, des commercialisateurs comme Médicis, des constructeurs comme Geoxia et aussi des portails comme Bien Ici.
J'ai vu également Réalité sur
oui,
votre
exactement.
Réalité, une belle entreprise
Réalité,
épée de la Loire.
Ouais, Dreamkey. Donc ouais, c'est vraiment des solutions avec lesquelles, enfin des entreprises avec lesquelles ça marche bien. On se plug à leur CRM pour réussir à capter tous leurs contacts et à leur remonter toutes les infos, à interagir avec leurs commerciaux notamment, sans qu'ils n'aient à adopter une nouvelle solution, une nouvelle plateforme.
Et alors moi qui demain pourrais être promoteur immobilier, si je veux vous contacter, comment je dois m'y prendre ?
Bah, vous pouvez contacter notre super sales manager qui s'appelle Ariane sur l'adresse mail suivante, Ariane comme la fusée, @pimpo.fr.
Parfait, ou sinon sur LinkedIn, puisque
ou
vous
sur
êtes
LinkedIn,
très
ou
présent.
Sur notre site directement, on a
actif.
Aussi un formulaire de démo qui vous mettra directement en contact avec nous. Et vous pourrez même un peu vivre l'expérience en tant que lead, puisqu'on utilise pour nous-mêmes notre propre solution.
Parfait, donc une expérience utilisateur que vous faites vivre même à vos clients.
Voilà, exactement.
Parfait, écoutez, bravo pour votre belle trajectoire. On
Merci.
Vous souhaite plein de succès.
Merci beaucoup.
Pour les années à venir, on va vous suivre évidemment chez Radio IMO et au plaisir de vous recevoir dans quelques temps.
Super,
à très bientôt,
merci,
Laurence.
À bientôt. Merci.
La Startup IMO, Jean-Michel Royot.
Il vient de nous rejoindre dans le studio. Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Rava. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Le directeur général de Mercialys, Fabienne, notre grand témoin, notre grand invité de ce Mac de Limo. Ça sera évidemment dans quelques instants, de 8h à 9h. Vous connaissez le principe, Vincent. C'est votre émission. Alors évidemment, il va falloir nous parler de votre entreprise, de vous, un petit peu. Et puis, on vous a laissé aussi les manettes pour la programmation musicale. Voilà, on va écouter dans quelques instants votre titre. Et puis ensuite, vous serez soumis à la batterie de questions que Fabienne a préparée pour vous. Fabienne, d'un mot, on peut rappeler ce que fait Mercialys, on l'a dit.
Oui, Mercialys, l'une des premières foncières avec un patrimoine immobilier de 3,2 milliards, un portefeuille de plus de 2000 sambos. Ça fait beaucoup de chiffres. Pour commencer, tout de suite, la musique, je vous propose, Fabrice.
Ben voilà, c'est le premier choix de notre invité, Stolen Moment, par Ahmad Jamal Trio. On commence tranquillement la matinée, Vincent.
Oui, ça va être très sympathique pour commencer la matinée.
Allez, on écoute ça tout de suite. On se retrouve juste après le Flash Info à 8h.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.